les enfants sont des boussoles qui nous rappellent la nécessité de garder le cap, de garder la motivation, de garder un but à atteindre. Et quand il est atteint, voilà. Ils sont une très grande école. Parce qu'on pense que nous, on éduque nos enfants, c'est faux. Ce sont eux qui nous éduquent, qui nous transforment en des êtres meilleurs ou pires. Pas pires de leur fait, mais parce qu'on n'aura pas eu les épaules pour, on aura baissé les bras, on n'aura pas accepté le challenge. Et pour ne pas l'accepter, il ne faut déjà pas les faire.
Tant que je serai noire, c'est le podcast qui répond à la question « Tant que je serai noire, serai-je mère ?» Tant que je serai noire, ce sont des récits de femmes qui nous parlent de leur désir ou non-désir d'enfant. Un podcast pro-choix qui encourage les femmes à disposer de leur corps et à faire des choix éclairés. Cet épisode est d'ailleurs sponsorisé par Daisy. Daisy est un appareil, mais aussi une application qui vont te permettre de connaître ton cycle menstruel et ta fertilité. Daisy permet d'avoir des outils dont on a toutes besoin pour choisir ou non de tomber enceinte. Comment est-ce que ça marche ? Ça permet de mieux connaître son cycle menstruel, sa période de fertilité et de manière générale, ça permet de mieux connaître son corps. D'ailleurs, la devise qui m'a tout de suite parlé, c'est « ton corps, ton cycle menstruel, ton choix ». En parlant de choix, l'invitée de cet épisode a choisi de devenir maman de 4 enfants. Même preneur, autrice d'une BD, C'est Maman qui commande, et créatrice d'un bel espace bienveillant sur Instagram, Shina Donia, ou Tata Shina pour nombre de ses abonnés, s'est livrée au micro de Tant que je serai noire. Elle nous parle de son amour pour ses enfants, de la place importante qu'elle accorde à la transmission. Elle nous parle du clan matriarcal qui l'a forgé et elle nous donne de beaux conseils de Tata. Bonne écoute!
La maternité, c'est un sujet dont j'aime beaucoup parler parce qu'elle me définit. Je me souviens vraiment quand j'étais petite, je rêvais pas de me marier. J'avais trop honte à l'idée de me marier, qu'on va dire d'embrasser la mariée, je vais mourir de honte, les gens vont me voir. Donc rien que pour ça, je voulais jamais me marier. Et aussi parce qu'au même âge, il y avait des oncles, des cousins ou des amis de ma maman, des trucs comme ça, qui quand ils venaient, « Oh ma femme, tu es trop belle, hein, quand tu vas grandir là, je vais te marier. » Et moi je me dis, mais jamais, mais quelle horreur. En fait, je me demande s'ils se rendent compte à quel point ça peut traumatiser un gosse. Et je me dis, mais non, je veux pas être sa femme et tout, donc je voulais pas. Mais je sais que je voulais avoir des enfants. Je voulais avoir un enfant pour chaque jour de la semaine. Bon, j'en ai eu 4, il me manque encore 3 jours du coup. Et du coup, le premier, alors ça, c'était pas préparé du tout. J'en parle toujours avec beaucoup de sincérité et pour rappeler aux gens que ce sont des parcours, mais qui ne signifient rien de plus que, voilà, une décision qu'il faut assumer, qu'on ait un enfant à 30 ans ou à 17 ans, comme ce fut le cas pour moi, pour mon premier. Les enfants sont des boussoles qui nous rappellent la nécessité de garder le cap, de garder la motivation, de garder un but à atteindre. Et quand il est atteint, voilà. Ils sont une très grande école. Parce qu'on pense que nous, on éduque nos enfants, c'est faux. Ce sont eux qui nous éduquent, qui nous transforment en des êtres meilleurs ou pires. Pas pires de leur fait, mais parce qu'on n'aura pas eu les épaules pour, on aura baissé les bras, on n'aura pas accepté le challenge. Et pour ne pas l'accepter, il ne faut déjà pas les faire. Et c'est pour ça que le parent, chez nous, ce n'est pas celui qui met l'enfant au monde, mais celui qui l'élève, celui qui accepte de relever le défi. Et c'est une très belle école de la vie. Mes enfants m'ont appris la patience. Je n'étais pas quelqu'un de patient. Et en fait, plus on en a, plus on est patient. On le voit tous d'ailleurs que nous, nos parents n'étaient pas trop patients avec nous, mais avec les petits frères, mais qu'est-ce qu'ils sont cool et tout. Parce que bon, ils lâchent prise sur certaines choses. Mes enfants m'ont appris la résilience, la combativité, un courage, une force folle. Ne serait-ce que le jour seul de l'accouchement, on se dit je ne savais pas, j'étais capable d'un miracle pareil, un exploit. Ils nous enlèvent aussi le sommeil, ça c'est sûr, pas que dans les premières années de leur vie, mais je ne pense pas avoir fait une bonne nuit, comme on dormait avant d'avoir des enfants, on dormait jusqu'à pas d'heure. Parce que je leur dis toujours, quand on est maman, notre cœur sort de la poitrine. Et il se promène avec l'enfant. Et du coup, comme j'en ai 4, mon cœur est toujours à 4 endroits différents. Je n'ai pas tous mes poussins autour de moi. Je ne suis jamais complètement tranquille. Je ne dors pas bien la nuit s'il y en a un qui n'est pas rentré. Je ne suis pas bien l'après-midi s'ils ne sont pas tous revenus de l'école. Ça aussi, c'était cette anxiété-là, parce qu'on a peur pour quelqu'un d'autre tout le temps. Et c'est normal. Et je pense que même quand ils sont grands, on a toujours un peu peur pour nos enfants. Mais je sais aussi que c'est la forme la plus ultime d'amour. L'amour que peut nous donner un enfant et celui qu'on ressent automatiquement quand il naît. Parfois non, hein, on peut faire aussi un baby blues. Mais c'est un attachement qui ne s'explique pas jusqu'à ce qu'on devienne parent. Et même si tous les parents n'arrivent pas à verbaliser ou à démontrer leur amour, il est là. On est prêt à tout. Et je sais que voilà, on tirait une balle. Bien sûr que je me jette 15 fois pour que mon enfant vive. Et en même temps, je sais que je suis le genre de maman aussi cruelle qui, dès que je rentre de faire mes courses et qu'ils ne se sont pas dépêchés de m'aider dans le couloir, je vais crier « Vous allez voir quand je vais mourir! Je vais bien voir comment vous allez faire !» Il me regarde, mais maman, pourquoi tu dis des trucs atroces comme ça? Parce que vous me fatiguez! Et après, je me ressaisis deux minutes après dans mes chinettes. T'as besoin de leur dire des trucs. J'ai juste parce qu'ils t'ont pas entendu ouvrir la porte. Mais quel genre de merde tu es! Et évidemment, je ne vais pas aller m'excuser. Je dis genre, je m'en fous. Ah, venez me ramasser les sacs. Peut-être là. Il paraît que c'est depuis le ventre qu'un bébé va aimer certains goûts ou pas, en fonction de ce que sa maman a mangé le plus. Moi, je suis née en plus au village. Je ne suis pas née en ville. Je ne suis pas née à la capitale. Enfin, au village. Je suis née en province, du coup. Et ma grand-mère, dont j'étais la première petite fille, ma mère m'avait eue relativement jeune. Et puis, elle n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Donc, c'est ta petite sœur qui servait de nounou. Portait l'enfant toute la journée, là, ma tante Patricia. Et ma mamie, évidemment, qui était en pamoison devant sa petite fille d'amour et tout. Elle me traînait partout avec elle. Et mamie me racontait, j'aimais manger les bananes, les petites bananes, voilà. Et le manioc. Le manioc, c'est vraiment le pain de chez nous. Ma grand-mère emmenait au champ pendant qu'elle plantait l'arachide ou les boutures de manioc. Elle me laissait sur une natte. Enfin, même pas le pain qu'elle utilisait pour me porter à l'avant, vu qu'elle avait un panier dans le dos. Elle me laissait dessus avec mon petit bout de manioc que je suçais comme une tétine. Et de l'autre côté, la banane. Et je m'endormais là. Et je revois ce bébé sans avoir d'image de ça. Mais j'imagine la quiétude. Elle me laissait à l'ombre. Et des fois, je me dis, parce qu'elle nous raconte aussi des contes où une femme est allée au champ avec son bébé. Et puis, Ebien, qui est donc le yéti, le monstre d'ici, qui viendrait de la forêt. Donc, on l'appelle Ebien ou bien Singan, qui vient voler l'enfant. Et puis, la dame, elle a dû chanter plein de chansons pour retrouver la voix de son enfant. Il y a ce genre de choses. Des fois, je dis, mais mamie, un animal peut me voler. Mais non. Je l'aurais coupé en deux avec ma machette. Donc, ma grand-mère était tellement protectrice comme ça aussi. C'est elle qui m'a également appris que ce mensonge qu'on nous disait que les femmes ne mangent pas certains aliments, notamment le serpent, le crocodile, la tortue, sinon elle va accoucher un bébé avec des écailles. Alors que ce sont des mets fins, c'est des viandes très très rares. Les meilleurs morceaux allaient toujours aux hommes, de toute façon. Et puis, il y a des gibiers qui sont vraiment très petits. Pardon, les gens vont se vexer ici, les écolos et tous les écureuils, les machins. On mange ça chez nous. Le pangolin, le porc épic, c'est des petites viandes. C'est pas comme si on avait tué un sanglier. Là, on est sûr que tout le monde en aura. Nous, on est des peuples de forêt. On vit beaucoup, quand même, de produits maraîchers, de poissons fumés, qu'on va cuisiner en sauce. La viande fraîche est très rare. C'est pour les grandes occasions. Et c'est ma grand-mère qui, quand elle cuisinait ça, il faut les donner au grand-père tel, parce qu'eux, ils mangent au corps de garde, elle me laissait toujours une partie de côté. Et quand je disais, mais mamie, on dit que les filles ne mangent pas ça, elle me dit, allez, ça, c'est faux. C'est pour que vous ne... Déjà, parce qu'il n'y en a pas assez. Et pour qu'on ne mange pas les bons morceaux. Et du coup, mon palais a été très vite développé à cette cuisine typiquement des grands-mères. Chez nous, on mange les chenilles qui grimpent sur des arbres, qu'on les cueille. Je me souviens, j'avais même pas peur quand j'étais enfant. Il fallait juste en percer la tête avec des pics et les griller. Mais on mange tellement de choses que la meilleure cuisine pour moi a toujours été la cuisine du village. C'est là que je salive, même là en parlant, je salive et tout. On peut mettre le caviar, les machins, oui, tout ça c'est bon, les sushis et tout. Mais c'est pas la cuisine qui me va le plus au cœur et qui me fait voyager, m'évoque vraiment. L'une des personnes qui a été mon grand, grand amour, ma grand-mère, et toutes les personnes qui ont eu cette relation particulière avec une grand-mère ou un grand-père savent de quoi je parle. Et notre lien venait beaucoup de la cuisine. Elle ne m'a pas appris à cuisiner, elle me faisait manger. Ce qui fait que j'ai dû apprendre seule par la suite. Ma grand-mère ne m'a vraiment pas transmis la technique, quoi. Ma mère non plus. Parce que comme j'étais l'aînée, elle mettait mes petites soeurs à contribution. Moi, je venais goûter le sel et tout, machin. Et là, avec les années, mes sœurs cuisinent tellement mieux les plats de maman que moi, que des fois, je suis obligée d'appeler « Si, quand maman fait le poisson salé, là ?» Elle met les choux avant ou après. Et vraiment, toute honte bue. Et c'est ça aussi, quand mes enfants étaient petits, ben, il y avait toujours à manger ce genre de plats que je ne cuisinais pas. Je payais des tantes au pays. Je vais appeler, je ne sais pas où, une grand-mère, mamie Isabelle et tout. « Je passe chez toi dimanche. Je vais manger au sanglier. » Elle me dit « Non, non, non. » Tu viens, on va au marché. Je lui laisse 50 000, ça correspond à quoi, à 80 euros, un truc comme ça. Elle va faire les courses, je reviens avec mes Tupperware, j'embarque les trucs. Je lui dis non, je dois aller au bureau, là, j'ai pas trop le temps. Mais j'avais toujours ce genre de plan et du coup, mes enfants étaient familiers de ça aussi. Certainement du fait que quand j'étais enceinte, j'en mangeais aussi beaucoup. Donc leur palais est très gabonais, mais très. À chaque fois qu'ils vont rentrer d'école, ils sont capables depuis l'ascenseur. De toute façon, on est les seuls noirs de notre choix. Il y a un réunionnais en plus de nous. Ils arrivent, mais surtout mon dernier qui est dans la phase de croissance où il mange comme 5 personnes. Il va ouvrir la porte. Maman, ça sent le riz. Ça sent le riz rouge. Maman, ça sent la sauce arachide. C'est tellement ça leur bonheur. J'ai techniquement une fille, mais en réalité, j'en ai trois. Donc, les deux filles de mes sœurs. Comme mes enfants savent que leur maman, c'est aussi mes sœurs. C'est aussi une manière de vivre chez nous. Je pense à ce jour, j'ai inventorié combien de mamans j'ai. J'en ai 37. Entre les cousines de ma mère, les belles-sœurs de ma mère, ce genre de choses. Et d'ailleurs, on les appelle, on dit pas tata chez nous. On dit maman telle, maman Viviane, maman Mélanie. Donc, enfant, on dit maman. Donc, j'ai tellement de mamans. La petite sœur de ma mère, comme je dis, c'était littéralement comme ma mère. Elle avait 12 ans quand je suis née, mais celle qui me gardait, me portait, jouait avec moi tout le temps. Et c'était une des personnes. Ma grand-mère, on avait une fusion, une connexion intense, mais j'appelais ma grand-mère Mama. Sa sœur, qui était mon homonyme, s'appelait Marie, je l'appelais Mama Mar. Mon autre homonyme, Yvonne, Mama Yvonne. Tant de mamans, et toutes, hein, elles ont. Je ne saurais dire si une m'a aimée plus qu'une autre. J'avais l'impression, en tout cas, qu'elle me voyait, qu'elle me parlait, qu'elle me faisait des choses, que j'étais en sucre, que j'allais fondre, qu'il fallait me protéger, que. Que d'amour j'ai reçu de ces personnes, au point que parfois même nos mamans soufflaient. Parce qu'il y a tout ce monde là autour de nous, donc elle n'a pas besoin d'être là en mode mama bear tout le temps sur nous. Puis souvent on était dans des maisons où, bien qu'on soit adulte, on vivait parfois encore chez les parents. Il y avait toujours une tante ou deux qui étaient là à l'heure du bain, et une tata qui a dû laver tout le monde. Vraiment cette maternité-là, multiple, enfin pas de mon côté, du coup de mes mamans, a fait que j'ai développé la même chose. Quand ma sœur a eu son premier fils, c'est moi qui étais au bloc, j'ai dit à mon papa, Donc on s'alternait avec ma maman, par exemple. Donc, mes neveux savent, je suis maman. Ils ne vivent pas à côté, donc c'est un peu plus difficile de les voir. Du coup, les gens pensent que j'ai qu'une sœur et ma nièce qui vit à Londres, qu'on voit un peu plus. Mais pareil, ma nièce, c'est mon bébé. À l'instant où elle est née, j'ai même dit à ma sœur ce que ma mère m'a dit, viens me donner l'enfant. Comme ça, tu travailles tranquillement à Londres avec ton mari. Elle me dit, non. Je dis, non, de quoi? C'est vraiment, voilà, il passait son mari blanc. Si c'était un Congolais, un truc, j'allais bien négocier ça avec eux. Et surtout, ma soeur, elle me faisait genre, oh non, mais l'enfant va me manquer. J'ai dit, est-ce que moi, je suis morte d'avoir laissé les enfants avec maman et vous? Hein? Tu travailles bien, tu prends 2 ans, 3 ans, tu essaies de gagner une promotion, un truc, elle sera là, tu prends juste le rostar. Mais sans vergogne, hein, Et bien sûr, je pense ce que je dis, que la petite sera mieux. Et mes enfants tout aussi traitent. Mais oui, tante Titi, comme ça, elle sera avec nous, elle va prendre le français. La mère va même pas parler le français. Et d'ici, son père et sa mère parlent le français. On essaye toujours comme on peut de voler la gosse. Même les moments où ma nièce est là, j'ai pas l'impression que c'est ma nièce. C'est vraiment mon enfant. Et ma fille n'a aucune forme de jalousie à l'égard de ses cousines. Ouais. D'ailleurs, mon autre sœur a une seule fille qu'elle appelait Shina, comme moi. Tout de suite, dès qu'elle a une fille, voilà, c'est l'homonyme, ça compte ça. Charlotte, l'homonyme, c'est notre grand-mère. Et on maintient. Ma fille, bah, c'est ma mère et mon arrière-grand-mère. Donc, on maintient ces noms, ces femmes qu'on a aimées. Et on s'assure de ce que Paloma, qui est du coup l'aînée des filles, aura ce même rapport avec ses cousines, qui sont ses petites sœurs en réalité. Et même avec ses frères. Des fois, elle me dit, maman, tu sais, de toute façon, moi, je sais que comme c'est moi la fille, là, c'est moi qui devrais organiser des trucs pour que la famille se retrouve tout le temps. Hein, parce que je sais que mes frères, là, je dis tout à fait, tu as tout compris. Tu feras comme ta maman. Donc, c'est des choses qu'on transmet. La transmission, je pense aussi que c'est par les choses que les enfants voient, qu'ils apprennent le plus, au-delà de ce qu'on leur dit. Et je sais que je répète souvent à ma fille, est-ce que tu as déjà vu tante une femme me répondre? Comme toi, tu réponds à ton grand frère. Et après, je me rends compte, bah, c'est toi qui l'as laissé d'abord répondre sans rien dire. Je ne veux pas décrire ma fille comme une petite insolente. C'est juste, elle est un peu plus libre de répondre que nous, on était. Que même mes sœurs, qui ont la trentaine passée, non, mais même pas en rêve. Même de dire, mais c'est à moi que tu dis, mais non, je voulais seulement dire. Je dis, ah, chance. Hein. Mais parce que ma mère aussi nous a élevés avec cette idée de l'aîné, c'est l'aîné. Et c'est comme ça. Et chez nous, hein, c'est presque un fardeau d'être l'aîné, surtout quand on est une fille. On a la responsabilité de ses petits frères et sœurs. Parfois, on va avoir la responsabilité financière. On va être responsable de leurs enfants, s'ils sont moins sortis. Il faut les envoyer à l'école. Hein, alors moi, ça n'a pas raté. Ma mère. quand elle a quitté ce monde. Ma deuxième sœur avait 20 ans, 22, 22, 21, 22. Et la dernière avait 16 ans. Donc les pauvres, voilà. Moi-même, à peine, il fallait. Et puis surtout, je voulais qu'elle sache, yo, I got this. Oui. Je voulais à aucun moment que mes sœurs aient l'impression qu'on est seules, il n'y a personne. J'étais tellement protectrice d'elles, plus que ma mère ne l'aurait été. Il fallait que je m'assure qu'elles terminent leurs études, que si, que ça. Pour que pareil, s'il m'arrivait quelque chose, qu'elles s'en sortent. Mais c'était dingue au point que je me souviens, quand je prenais l'avion pour venir à Paris, à ma sœur qui est juste après moi, ma cadette, je le faisais toujours en chèque blanc. J'ai dit, au cas où l'avion tombe. Il dit comme ça, tu vas à la banque, tu retires tout mon argent. Et des fois, ça lui donnait envie de pleurer. Pourquoi tu me dis les choses comme ça? Il dit, j'ai dit, c'est bon, tu fais. Et mes sœurs, je pense, elles ont passé ce cap de la peur de me perdre. Mais pareil, je l'ai préparé à, yo, soyez pas surprise. Voilà où j'ai caché quoi, les papiers de tel truc sont là, les actes de naissance de maman sont là. Maintenant, j'ai gagné une forme de sérénité où je me dis, bon, allez, c'est pas parce que notre maman est décédée tôt que moi, je vais partir plus tôt. Mais j'ai transmis aussi ça, malheureusement, cette insécurité sur la... Peut-être pas cette insécurité, cette certitude que les êtres aimés partent et les mères ne sont pas immortelles. Je vois la plupart des gens de mon âge, hein, ils ont leur maman, c'est même pas des pensées qui les effleurent. Ils se disent, oui, les parents seront vieux, mais maman ira au marché un jour et puis un taxi va lui rentrer dedans, on va nous appeler du pays. C'est des choses tellement brutales. Ma mère est allée à l'église, elle a fait un AVC dans l'église. On était rien, elle avait rien. Ma mère avait 44 ans. Et cette idée que rien ne peut arriver, même à nos enfants, c'est vivre dans une forme de déni. Et je ne me lasse pas de parler de la mort, pas parce que je suis quelqu'un de morbide ou quoi, mais de dire aux gens, soyez prêts. Et être prêt, c'est se dire les choses, tant qu'il est encore temps. C'est faire les choses qu'il faut pour les êtres aimés, tant qu'il est encore temps. Les faire voyager là où on aurait toujours voulu envoyer notre maman. Ça, c'est un de mes grands regrets. Ma grand-mère, pareil, je lui avais promis, je l'amènerais à Biarritz. J'ai pas pu. Voilà, avoir des conversations essentielles avant qu'il soit trop tard, mais vraiment vivre ces moments-là et se dire, si voilà, il n'y a pas de demain, je sais qu'on se sera dit les choses, je sais que... Et du coup, dans mes nombreux projets d'écriture, enfin nombreux, il y en a deux, il y a ce livre que j'écris lentement, mais sûrement, qui est dédié à ma mère, et qui s'intitule « Tout ce que j'aurais voulu dire à ma mère, mais que le temps ne nous a pas laissé le temps de nous dire ». Ça fait un long titre. Ouais, c'est beaucoup de conversations sur la vie que j'essaye d'avoir avec ma sœur, ma fille, pardon, et parfois avec mes sœurs dont je suis devenue maman, quelque part. Et jusqu'à présent, il y a certaines conversations que je n'arrive pas à avoir. Mais il y a des difficiles, il y a des plus aisées, il y a des choses aussi simples que la toilette intime. C'est pas ma mère qui m'a appris, c'est ma grand-mère, mais vraiment à l'ancienne. Hein. Mais je sais aussi, il y avait des cousines. Et du coup, parfois, elles racontaient des conneries. Ah, faut bien mettre le savon dedans. Ben non, et après, quand on regarde, les gynécos nous disent, ben non, on met rien dedans. Et puis, il y en a qui disent encore, faut mettre les feuilles de JK dedans. Mais non, on met rien dedans. Donc, c'est toutes ces choses. Mais c'est très important. Et j'y ai pensé comme chapitre en me disant, mais si, c'est important. Ouais. Surtout, les enfants élevés ici en Occident. Je sais que j'ai une nièce qui était venue en vacances chez moi au Gabon, elle avait 16 ans. Et je me suis rendu compte qu'elle ne savait pas se laver. Parce qu'elle traînait ses odeurs féminines corporelles. Et je me suis dit, mais comment je vais lui expliquer bien? Et je n'ai pas pu lui dire. Et je me suis dit, heureusement, avec ma fille, je pense qu'il n'y a que 2 ans que je vais arrêter de vérifier comment ma fille se douchait. Mais la pauvre, moi, j'ai découvert sa forêt peut-être à 20 ans. Elle a la version mini. Non, il dit que, pardon, ma fille, tu dois bien te laver. Tu frottes bien le corps, tu, voilà, les aisselles, les ci, les ça. Parce que ma grand-mère, elle nous frottait même le visage avec le coussin. C'est des conversations. Ouais. Et il y a d'autres conversations plus difficiles sur bah oui, la grossesse. Il y a des conversations sur les amours, sur l'argent. Il y a des parents qui ne nous apprennent pas comment gérer nos finances. Voilà, et puis on se retrouve démunis où on a fait plein de mauvais choix dès la vingtaine. Des choses qu'on aurait pu corriger même depuis l'adolescence, même à la préadolescence. Et puis tout un tas d'autres choses. Et puis évidemment la mort, parce que les êtres aimés partent. Mais c'est des sujets de conversation comme ça. Et parfois, il m'arrive d'observer les gens. Je me dis, tiens, je vais rajouter ça comme chapitre. La cuisine en fait partie aussi. Et du coup, ce sera un très joli livre dans lequel on retrouvera vraiment mes recettes basiques et préférées de ma mère et ma grand-mère. Et ces choses qui... Voilà, si on est italienne, on doit savoir faire des lasagnes, je ne sais pas, moi, une sauce tomate, ainsi, ça, machin. Et si on est africaine, quelles sont ces petites choses toutes simples qu'on doit pouvoir au moins savoir faire? Et ça ne va pas être une omelette. Non, ça ne va pas être des pâtes, ça va être d'autres choses. Et c'est plein de petits chapitres comme ça. Et je sais que c'est un livre qui peut s'offrir à une adolescente, à une femme plus âgée, parce que si ce n'est pas la cuisine qui va l'intéresser ou l'hygiène intime, ou les rituels de beauté de chez nous. Ça aussi, on en a, hein, ancestraux, autour de produits tels que le beurre de karité, l'huile d'amande douce, l'argile, qu'on appelle le calabas, et plein de choses comme ça. Pareil, on va courir chez Sephora, mais il y a encore des petites choses de chez nous, comme ça, que nos grands-mères maîtrisaient, la pierre ponce, avec des jolies photos. Et c'est en lisant le livre de Garance Doré, How to be a Parisian, que je me suis dit, tiens, je vais modeler avec des photos également. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais prendre des années à bien faire ces photographies-là. Il y aura une partie un peu plus légère. Et pareil, des conversations sur les études, comment trouver sa voie. Et puis plus tard, parce que c'est la partie qui me semble la moins importante, en tout cas, je ne vais pas en faire le point focal, comment choisir son compagnon de vie, finalement. Parce que là aussi, oh là là, les losers, en se disant, ah, si ma mère m'avait seulement bien dit. Oh, Seigneur. Moi, j'ai suivi le gars-là parce qu'il avait des gros sourcils et les yeux verts. Voilà, maintenant. Et je me dis, évidemment, je vais le dire à ma mère, à ma fille adorée, en disant, si je ne suis pas là, lis-le. Cherche le bon chapitre. Et puis, voilà, dit, ah oui, tiens, celui-là. Hop, maman l'a laissé. Mais ce n'est pas que ce que je sais ou ce que la vie m'a appris. Parce qu'encore une fois, c'est des conversations que je n'ai pas forcément eues avec ma mère, mais que j'aurais eues avec d'autres personnes, avec d'autres mamans. Et les mamans de mes amis, avec mes grandes-tantes, avec mes tantes, les cousines de ma mère. Et toutes ces choses-là, je note. Et je les range dans un livre, peut-être en plusieurs chapitres, je ne sais pas. Enfin, plusieurs chapitres. Plusieurs tomes. Ouais. Je me suis dit, tiens, je vais en faire un. Tout ce que j'aurais voulu que ma mère me dise sur les amours. Les hommes et les amours, c'est tout un paragraphe. Un autre plus études, travail, finances. Ouais. Et puis un autre sur, soi-disant, c'est quoi une femme. J'en sais rien. Mais j'écris pêle-mêle, je compile les infos. Et je sais que j'aurais adoré lire ce livre. Du coup, je ne l'écris pas pour moi. Je l'écris pour ces filles, ces femmes qui ne savent pas comment avoir ces conversations avec leurs filles ou l'inverse. Et dire, bah, tiens, voilà, lis. Moi, je crois en cette idée de la vie, qui est une école également, qui nous apprend des choses. Parmi les personnes vraiment qui m'ont le plus servi aussi de figure paternelle et maternelle, il y a mes professeurs à l'école. J'ai beaucoup de profs dont je garde un souvenir très, très ému, qui ont été vraiment présents pour moi, que ce soit au collège, lycée ou même à l'université. Comme je disais, j'avais du mal à trouver un stage. Et puis, voilà, ce professeur blanc, pas du tout parenté à moi ni rien, qui allait tout faire pour que je m'en sorte. Des mentors, pendant que j'étais en stagiaire, que ce soit à Toulouse ou à New York. Quand c'est pas ça, parfois c'est des personnes, des autorités religieuses. Moi, j'ai la chance d'avoir eu un grand-père qui était pasteur. Donc c'est vrai que je regardais mon grand-père avec une forme de déférence en me disant c'est un homme de Dieu. On avait dans le salon des photos de papy avec le pape. En plus, c'était le président de l'église évangélique du Gabon, donc l'église protestante. C'était l'autorité la plus élevée. Il y avait un sentiment de protection. On se disait, mais non, quand tu as un grand-père qui est pasteur, il ne peut rien vous arriver. Presque, il est céleste. C'était qu'un homme. Hein. Mais vraiment. Et au-delà de lui, j'essaie de me souvenir. Et puis, il y a des rencontres comme ça. Ouais, quand j'avais 19 ans, je me souviens, j'étais allée à l'hôpital, j'étais malade et j'avais pas une thune, mais vraiment. Mais ça va, j'avais la mutuelle étudiante dont je savais que j'allais rien payer. Mais quand je dis j'avais pas d'argent, j'avais vraiment pas d'argent. Et j'avais tellement faim, en plus d'être malade. Et il y avait ce monsieur, je me souviens, je sais même, hein, l'hôpital, c'était l'hôpital Bichat. Et il était assis en face de moi dans le hall. Je pense qu'il était, était d'Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, Burkina, ce genre de choses, avec un grand boubou, et il mangeait des madeleines. Mais en fait, j'étais comme un enfant de 2 ans qui voit un adulte manger du pop-corn, tu vois, genre, tu vas me donner. J'essayais de regarder ailleurs, mais mon regard fixait tellement ces madeleines, et je ne sais pas ce qui m'obsédait autant entre son geste, il coupait un petit bout, il mettait dans sa bouche, mais ses doigts usés, dont on sait qu'ils ont beaucoup travaillé, les phalanges se sont un peu tordues, les traits de son visage émaciés, mais toujours tellement beau, cette belle peau noire, cette dignité dans sa posture et tout, bien que visiblement malade aussi, ou peut-être qu'il est venu attendre quelqu'un, je ne sais pas. Et je le regardais fixement, et puis il s'est levé. Il est venu, il m'a tendu, il avait enlevé une seule madeleine, il m'a tendu tout le paquet de madeleines, et j'ai levé la tête et j'ai voulu faire « Non, non, merci, monsieur. » Il m'a dit « Mange. » Il est resté debout jusqu'à ce que je tienne le paquet. Il est retourné s'asseoir. Et je le voyais de plus en plus flou parce que je me suis rendu compte que je pleurais. Je pleurais parce que j'aurais pu crever la dalle là, personne n'aurait calculé. Mais chez nous, quand on a faim, on va juste chez quelqu'un. Chez une tata, un tonton, on rentre. C'est pour ça qu'il y a toujours des gens qui viennent de manière impromptue à midi. Parce qu'il y a toujours à manger pour quelqu'un. On donne toujours à manger. C'est pas juste à boire, on donne toujours à manger. Et ce lien qu'on avait finalement culturel, lui et moi, il ne l'a pas rompu. Il m'a vu, il m'a dit, ma fille, je te vois, entre, même si tu n'es pas à la maison, tiens, mange, mange, ne discute pas, quitte à ce que lui-même se prive, et je ne pense pas qu'il avait faim, c'est des madeleines. Et je mangeais comme ça avec lui, on pleurait, je pleurais mes parents, je voulais rentrer au pays, j'avais mal géré ma bourse, en plus j'étais malade, et la merde à laquelle je m'étais mise, je me dis, si j'appelle ma mère, elle va me gronder, ah oui, hein, machin, machin. Et puis il y avait ce monsieur-là, et j'ai plein d'exemples de gens comme ça qui se sont tenus sur le chemin et mon parcours de vie pour me rappeler que je ne suis pas que l'enfant de mes parents, et de mon clan et de mon village. J'appartiens à beaucoup de gens qui voudront toujours s'assurer que je vais bien. Et vraiment, cet esprit de l'orphelin dont je parlais, il faut qu'on s'en débarrasse, surtout nous qui vivons loin des nôtres. J'entends des discours autour du communautarisme, comme si c'était quelque chose de mal, en fait. Mais on a besoin de sentir qu'on appartient à quelque chose. Et c'est pour ça, avec plaisir, je clamerai toujours cette passion et cette connaissance que j'ai de l'Afrique pour être née et avoir grandi, pour essayer de partager aux gens ce qu'on a de bien, ne serait-ce que dans les valeurs. Parce que les valeurs, c'est des choses très simples à absorber, à calquer. Et la main tendue, la générosité, la bienveillance, cette maternité qui s'étend aux autres. C'est pour ça que je dis quand les autres m'appellent tata. Oui, c'est une sorte de petite maman, j'accepte. Ceux qui vont être du Congo vont m'appeler Yaya. Yaya, c'est la grande. Bien sûr que je suis leur yaya. Et ils savent, ou elles savent, c'est très souvent des jeunes filles, que si elles rentrent dans mes DM, si elles m'envoient un mail, m'expliquer quelque chose, je vais prendre le temps. Même si parfois c'est très très personnel et du coup là, je ne peux pas forcément aider parce que je ne suis ni psy, ni conseillère matrimoniale, ni quoi. Mais je veille à ce que j'incarne ça et que les gens sachent qu'en ma présence, ce qu'on m'a appris, m'occuper des autres, pas au détriment de moi-même. Il faut apprendre aux autres la même chose, mais s'occuper d'eux avant de pouvoir s'occuper des autres. D'où d'ailleurs cette démarche assez récente de me remettre au sport, pour me dire non, il faut que je reste en bonne santé, parce que il m'a fallu faire du sport pour me rendre compte que j'ai mal au genou. Je dis, les choses de la vieillesse, que j'ai mal au dos, que si, quoi, qu'est-ce. Je dis, pas vraiment, le faire de manière sérieuse. J'ai revu mon alimentation, parce que je me dis, mais tu ne peux pas t'occuper de tes enfants, du monde entier, de ton travail. Tu ne t'occupes pas de toi, finalement. Et ça, en revanche, on ne l'apprend pas. Ça ne fait pas partie de nos transmissions. La femme doit être la boyesse de tout le monde, de toute la famille, de la maisonnée, du mari, des belles-sœurs, des beaux-parents. Et puis, elle n'a qu'à crever de fatigue. Et ça, c'est la seule chose à laquelle je tords le cou, en disant non, avant tout le monde, occupe-toi de toi. Et ensuite, on ne peut que déverser le meilleur de nous aux autres. Et Dieu sait que quand je suis fatiguée, c'est là que j'ai le moins de patience avec mes enfants, c'est là que je suis la plus irascible. Et quand je vais bien, ils peuvent me demander tous les McDo du monde, puis ça, vous voulez des livres, mais aucun souci. Bon, je sais aussi quand je suis fauchée, là, je suis énervée comme tout. Des fois, même, je leur dis oui, tu sais, par contre, de vous là, franchement, je serais chanteuse en Australie, machin. Ils me regardent, on t'a pas demandé de nous faire, déjà, madame. Des fois, je calcule, je dis mince, mais les enfants là m'ont coûté combien depuis qu'ils sont nés. Mais ça arrive, hein. On ne peut pas être tout le temps content d'être maman. Anne, mais il y a des fois, vraiment, je me dis, mais. En fait, je me dis jamais. Que j'aurais voulu ne pas les avoir. Des fois, je me dis, je vais me casser. Vous allez bien me chercher ici. Et mon dernier, qui est hyper angoissé, qui est encore dans sa phase de dipienne, non, maman, je veux venir avec toi. Je dis, non, faut me laisser, laisse-moi tranquille. Aïssa Maïga, sans le moindre doute. Je l'ai découverte dans son film avec Romain Duris. Je suis tombée complètement en pamoison. Je ne sais pas comment décrire à quel point j'aime cette... Je trouve que c'est une des plus belles femmes au monde. Elle est d'une beauté, mais au point que j'ai même envie d'avoir la forme de ses dents. Je suis tellement obsédée. Et en plus, aujourd'hui, l'activiste qu'elle est, les positions qu'elle prend, cette femme forte qui se dit peu importe qu'on me juge, qu'on ne m'aime pas, qu'on ne me comprenne pas, mais elle se bat pour une cause, elle défend quelque chose au détriment de sa propre carrière. Mais j'aime la beauté et la force qu'elle dégage. Et quand je fais des coachings avec mes clients, je leur demande toujours de faire des listes pour l'année, 5 ceci, 5 cela, que j'appelle la liste des 5, et je leur demande d'avoir 5 mentors qu'ils aimeraient rencontrer. S'ils les rencontraient un jour, c'est pas pour dire « bonjour, je veux que tu sois mon mentor », mais les mentors, c'est des personnes qui ont un parcours qui est comme celui qu'on veut emprunter, et qui peuvent nous inspirer, de qui on peut apprendre. Lisez leurs livres, regardez leurs films, allez à des conférences où ils vont. Faites tout pour les croiser un jour. Quand vous les aurez croisés, vous les connaissez tant et si bien que vous savez en quoi vous pouvez leur être utile, en quoi vous pouvez les aider. Et c'est pas en les rencontrant, vous allez dire « oh, j'aime trop ce que vous faites », et puis c'est tout. Mais parlez-leur vraiment de ce que vous aimez dans ce qu'ils font et comment vous aimeriez contribuer à participer à ça. Et je m'étais mis il y a 2 ans en tête, j'avais fait une liste de mentors parce que j'ai commencé à écrire le scénario d'une comédie, mais mille et un projets, une comédie romantique qui se passe évidemment en Afrique, avec des go chic choc chic. Et le film est en trois étapes. Et le deuxième film, un peu comme Very Bad Trip. Le 1, le 2, le 3, voilà. Ce genre de comédie complètement loufoque, mais avec des filles noires. Et l'étape 2, c'est un mariage, où des filles de Paris, hein, des afropolitaines, vont à un mariage coutumier en Afrique. Toutes ne sont pas forcément nées ou n'ont pas grandi là-bas. Donc, il y en a, ça va être un changement radical. Mais ce n'est pas à la capitale, ce n'est pas à Douala ou quoi. C'est à Bamenjou, à l'intérieur des terres Bamileke. Donc, tout ce qui peut se passer de loufoque entre la crevaison et machin. Et j'avais imaginé que la maman de la mariée, Aïssa Maïga, cette femme noire qui est tellement belle, tellement chic, mais elle n'est pas Bamileke, elle est Douala. Et je me dis, voilà, je vais la transformer en une femme Douala, belle dans son kabangondo, mais tellement... Elle est riche, les Bamileke sont riches, hein. Avec ses sandales Hermès. En tout cas, la tantine, là, elle a toujours la clé du Prado, du Range Rover, son sac machin, Céline, la montre Cartier. Et pourtant, dans son boubou machin. Et c'était Aïssa Maïga dans ma tête. Et je me suis dit, oh mon Dieu, où est-ce que j'ai croisé cette femme? Est-ce que je l'ai trouvée? Où est-ce que tiki 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 tcha? Et bam, je me retrouve invitée un jour à un dîner où il y a 10 personnes de la diaspora. Non, non, il y a Rukaya Diallo, machin. Et Aïssa Maïga qui arrive. Je ne savais même pas. Je me suis dit, contiens-toi. Mais surtout, il faut aller vers eux pour parler. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle me connaissait déjà un peu. Elle m'avait vue ici, là. Toujours... Et puis, je me retenais, genre, ne saute pas, tu vois. Genre, ah bon, c'est vrai? Et j'ai pas... Voilà, on a parlé tout de suite. On a cliqué, et puis je lui ai raconté mon projet de film, etc. Je lui ai dit, alors, vous allez me croire ou pas, mais j'ai écrit un rôle littéralement pour vous. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, non, parce que tu toi, tiens. Elle me dit, oui, mais écoute, dès que tu as avancé sur le scénario, fais-moi lire ce que tu as et tiens, prends mon numéro. Mais j'étais en train de noter 06, quoi. J'ai bien mis sur le cloud que si on me vole mon iPhone pour la énième fois, moi, perdre le numéro d'Aïssa Maïga, alors que les astres sont alignés pour que je trouve la maman de mon actrice, mais même pas en rêve. Donc, il y a elle, pour ses mille et une raisons, et je reste persuadée que, voilà, un jour, je serai en train de dire moteur action, et Aïssa sera cette femme-là. Ça, c'est mon mentor numéro un, ça, c'est sûr. Actrice noire. Et je pourrais raconter plein d'autres anecdotes avec elle comme ça, mais quand on connaît même son histoire personnelle, son père qui était activiste, moi-même, c'est un aspect de moi qu'on ne voit pas sur Instagram, mais il faut venir sur Twitter pour savoir que je suis moi-même activiste politique, je n'ai pas le droit de rentrer dans mon pays pour avoir pris des positions très très fortes sur la dernière élection au Gabon en 2016, on a refusé de me renouveler un passeport, et ainsi de suite. Donc je ne peux qu'être admirative quand d'autres femmes se disent moi, mon rôle, ça ne peut pas être que ça. C'est aussi dire non quand les choses ne se passent pas bien dans la société. Mais que d'atomes crochus avec cette femme, son histoire, son parcours. Et je pense qu'elle n'a pas fini de nous montrer l'étendue de sa mission sur cette terre. Et puis, c'est-elle inspirée d'autres femmes à se dire je ne veux pas être Aïssa, je vais être moi-même. Mais on n'a plus besoin d'aller chez Oprah Winfrey aussi loin, autour de nous. Il y a des femmes qui nous ressemblent, qui sont accessibles comme ça. Elle était très, très active cette semaine sur son Insta. À cause de la convocation de Assa Traoré, je sais comment elle se bat pour les autres. En tout cas, Aïssa, si tu écoutes ce podcast, on est derrière toi. Oh, il y en a beaucoup, hein. Mon Dieu, il y en a beaucoup. Je vais hésiter entre Cesare Evora, Nayan Kabel. Alors ça, c'est parce que les gens me disent beaucoup qu'on se ressemble. Je ne vieillis pas, cette femme, elle est d'une beauté absolue. Césaria, sa voix, je vais garder Césaria et voir. J'ai grandi en écoutant, le dimanche à la télé, on avait un classement musical des tubes du moment. Et c'est comme ça qu'on avait tous, la chanson a tourné en boucle à la radio, je ne parle pas portugais, hein, mais on connaît tous ces chansons. Cette chanson, hein. Et cette chanson me donne toujours envie de pleurer. Parfois, elle passait à la radio vers 17h. Et c'est cette heure où on sait que les parents vont rentrer du travail, mais ils ne sont pas encore... Il y avait toujours quelque chose de très nostalgique. Et quand je réécoute cette chanson, je retourne en enfance et j'ai toujours envie de pleurer, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais eu l'occasion de la voir en spectacle. J'ai juste vu Myriam Makeba à Libreville, donc en voilà une autre aussi. Mais des papesses hein, de la musique africaine. Les Tchalamwana, Betty Masikini, Billy Abel, Grace Deka. Souvent, cet enfant du centre. Ces femmes ont bercé Rantan Plan, Charlotte Mbango. Elles ont bercé mon enfance musicalement. Avant les Beyoncé, il y avait ces femmes. Et quand elles passaient à la télé, elles étaient dans des clips tellement en beauté. C'était des avant-gardistes au niveau des looks. Mais Tchalamwana, c'est pas possible. Quand on regarde les covers de certains de ses albums, elle était en avance sur son temps. Elles sont trop nombreuses. Mais je vais garder Césaria pour l'avoir citée en premier.
Tant que je serai noire,
je serai fière.
Merci à Sheena pour ce bel épisode. Merci à vous, auditrices et auditeurs, car sans vous, le podcast n'existerait pas. Merci à Agnès pour la belle illustration. Suivez-la sur son compte Instagram Agnès Illustration. Merci à Alice pour le super montage de l'épisode. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram Les Belles Fréquences. Et enfin, suivez Tant que je serai noire sur Instagram. Et surtout, likez, partagez et laissez des petites étoiles sur Apple Podcasts.